Deutsche Welle, magazine environnement.
Quand la mangrove était là avant la grande sécheresse du Sahel des années 70, les populations des milieux de mangrove étaient aussi vivantes. Ils avaient tout.
Elle constitue une barrière naturelle contre les tsunamis, réservoir immense en matière de biodiversité ou encore un supermarché naturel pour certaines populations. Pourtant, la mangrove est en danger. Aujourd'hui, de nombreuses associations mettent en œuvre des projets pour la protéger, mais la menace existe toujours. Mesdames et messieurs, bonjour. Kossi Witiassou au micro.
La mangrove, c'est des forêts, c'est un écosystème qui est très utile pour d'abord la nature elle-même, parce que la mangrove sert de lieu de reproduction de beaucoup d'espèces. Et d'un point de vue du climat, la mangrove joue un rôle très important.
La mangrove n'existe que dans les régions tropicales et subtropicales humides, arides ou même désertiques. Elle abrite une faune riche et diversifiée et fournit le bois pour la construction et le chauffage. Certaines populations prêtent des vertus médicinales aux palétuviers. Les mangroves sont en réalité des communautés biotiques et surtout de végétaux, d'aspect très particulier, caractéristiques de vastes littorales marines, comme l'explique Abdoulaye Diam, spécialiste des mangroves et directeur exécutif de l'Association ouest-africaine pour l'environnement marin.
D'un point de vue du climat, c'est que la mangrove est un très bon capteur de séquestreur de carbone. Comme la mangrove est un bon séquestreur de carbone, la mangrove aussi joue un rôle de barrière contre l'érosion côtière. Et si vous rappelez les tsunamis qui sont passés en Asie et sur la partie de l'Afrique, sur l'océan Indien, la partie africaine de l'océan Indien, ces tsunamis-là, montre que la mangrove jouait un rôle déterminant lorsque ce phénomène-là s'est passé. Parce que les zones qui étaient boisées en mangrove n'avaient pas subi les mêmes dégâts que les autres, que les zones qui avaient été coupées. Donc, de ce point de vue-là, la mangrove joue un rôle très important. La mangrove aussi, pour les communautés africaines, elle joue un rôle important parce que l'essentiel de la nourriture dans ces zones provient de ces forêts de mangrove-là.
L'autre phénomène qui menace les mangroves dans une moindre mesure, c'est la montée des océans. Véritable lien entre la terre et la mer, la mangrove est l'un des premiers écosystèmes à subir le changement climatique. Au Cameroun, par exemple, parmi les nombreuses menaces qui pèsent sur les côtes du pays, longues de plus de 400 km, on peut citer l'érosion côtière, les ensablements et les inondations. L'une des raisons qui explique ces phénomènes est la disparition des mangroves. Un reportage de notre correspondant à Douala, Henri Fotso.
À toute heure, c'est une ambiance de marché ici à Yupwe, quartier de Douala situé sur l'embouchure du fleuve Vouri. Il y a pourtant moins de 30 ans qu'à cet endroit, on écoutait plutôt les chants d'oiseaux et des lucioles. L'homme a conquis l'espace côtier, changeant de force les données environnementales. À Douala, comme dans l'ensemble des localités côtières du Cameroun, des quartiers et même des villages entiers se sont installés sur des marécages, tout comme en lieu et place de la mangrove qui disparaît progressivement. Et pourtant, affirme Félix Bessac, chercheur à l'université de Douala.
La mangrove a un rôle de tampon et si cette mangrove est détruite, le mouvement ou la direction de vague est aussi légèrement modifié. Nous avons également les constructions tant sur le continent que directement sur les plages, le port en eau profonde de Kribi par exemple, qui va également modifier légèrement la direction du courant marin.
L'installation des humains sur la côte et dans la mangrove modifie donc chaque jour davantage les courants marins, avec des conséquences néfastes sur les espèces animales aquatiques. Les humains, en se disputant le leadership avec les forces de la nature côtière, ne sèment en réalité que du vent, dont ils récoltent assez souvent la tempête, souligne Dr Anselme Crépin Mama, enseignant-chercheur à l'université de Douala.
Les populations se sont installées le long de la côte sans un véritable respect des règles d'installation, à savoir 50 mètres derrière le trait de côte. Alors, sont installés et maintenant, avec le recul du trait de côte, ceci crée des effondrements de certains édifices certaines personnes, peut-être bien nantis, se sont lancées dans la construction des digues, mais sans une véritable expertise, ont vu leurs digues s'effondrer quelques années plus tard.
Docteur Mama travaille en effet depuis 3 ans sur la réponse du littoral camerounais à ce qu'il appelle forçage océanique. Il y a placé avec d'autres scientifiques une caméra et en croit désormais connaître la cause du recul du trait de côte camerounais ou érosion.
Nous avons observé depuis un certain moment un recul du trait de côte, dont une érosion. Mais ce phénomène d'érosion n'est pas observé toute l'année. Il y a des périodes où il survient ce qu'on appelle des événements extrêmes, à savoir des houles longues venant de l'Atlantique Sud qui viennent attaquer la côte camerounaise, principalement entre le mois de juillet et le mois d'août.
Les houles sont des ondulations dues au vent qui souffle et crée une force vibratoire sur les couches supérieures de l'océan, mettant la masse d'eau en mouvement. D'où donc l'avancée de la mer vers le continent et l'érosion côtière qui s'ajoute au phénomène de salinisation des eaux souterraines et des rivières. De même qu'à l'ensablement des terres, indique Dr Elumala Parfait, un autre chercheur camerounais.
L'ensablement ne nous donne pas un espace utilisable facilement, parce que le sable, il n'est pas consolidé. On ne peut pas s'y déplacer. Plutôt, ça crée des risques. Parce que quand on pense voir un espace terrestre, en réalité, c'est du sable qui peut être boueux. Il suffit de mettre son pied et on se retrouve englouti dans des eaux.
Le drame des localités côtières du Cameroun ne s'arrête pas là. Les inondations viennent s'y ajouter. L'absence d'un système de drainage conséquent dans la capitale économique du Cameroun, comme dans la plupart de nos villes aussi, participe des menaces qui pèsent sur la côte camerounaise, longue de plus de 400 km et d'une séismicité avérée. Les populations ne semblent pas bien conscientes de ces menaces. Les scientifiques se projettent alors dans l'avenir des risques présents par la recherche de propositions rationnelles en faveur des autorités et des populations. Henri Fotso, à Douala, pour la Deutsche Welle.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Merci à Henri Fotso. Nous retrouvons Abdoulaye Thiam, spécialiste des mangroves et directeur exécutif de l'Association ouest-africaine pour l'environnement marin, pour revenir sur l'importance des forêts de mangroves. Dans le cas où elles disparaîtraient, c'est bien sûr tout un écosystème qui serait mis à mal. Un écosystème dont le rôle est primordial, tant d'un point de vue économique qu'environnemental. Déjà, des populations font les frais de la destruction des mangroves, comme c'est le cas au Cameroun.
Pour sauver les forêts de mangroves, il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées actuellement par les ONG, les instituts de recherche. Actuellement, à Moankou, dans la forêt de Moankou, il y a beaucoup d'activités qui se passent. Parce qu'il y a des ONG qui sont regroupées autour de du réseau mangrove africain, mais avec sa branche locale, le réseau camerounais pour la mangrove. Donc, c'est un ensemble de structures, donc d'organisations locales, dont le CWCS, qui se battent pour la conservation des mangroves. Ils font des recherches appliquées, ils ont démarré des fours pour le fumage, pour réduire la pression sur les ressources de mangroves. C'est à Yoyo, Yoyo 1, Yoyo 2. Ce sont des fours qui sont très disponibles, qui sont très adaptés à la baisse de la pression sur les mangroves. Mais si on parle des cas comme Douala, moi je pense que la municipalité de Douala et l'État du Cameroun devraient prendre ce phénomène à bras le corps, devraient pouvoir travailler avec les structures de recherche qui sont là au Cameroun et qui ont des résultats probants sur la question de ces mangroves-là, pour établir des plans d'aménagement et des plans qui permettraient à la mangrove d'être utile et d'être sauvegardée. Mais ça, c'est une volonté politique qu'il faut.
Et vous, au Sénégal, quelle est votre expérience à la matière?
Oui, notre expérience à la matière, c'est que le Sénégal est un pays sahélien, donc très différent du Cameroun, où la pluviométrie elle est très forte, elle est importante, elle est abondante. Nous sommes dans le contexte sahélien. Lorsque nous avons démarré notre campagne autour de la mangrove, c'était pour influencer les politiques sur le fait que le changement climatique joue un rôle sur la dégradation des mangroves. Et en certains endroits, c'est beaucoup plus le changement climatique qui influence négativement sur la mangrove, beaucoup plus que l'action anthropique. Parce que lorsque, par exemple, si on prend l'exemple du Saloum et l'exemple de la Casamance, durant les années 70, donc les années de sécheresse, les années de grandes sécheresses dans le Sahel, les salinités ont augmenté et ont atteint des taux très élevés. Ce sont ces taux très élevée que les salinités ont atteint suite à un manque de pluie sur plusieurs années qui a affecté la destruction des mangroves. Les mangroves sont disparues et avec elles aussi beaucoup d'espèces végétales et d'espèces animales autour de ces estuaires-là. Donc, lorsque dans les années 2000, les choses ont commencé, la pluviométrie a commencé à revenir un peu, pas à la normale, mais il y a des phénomènes cycliques de retour à la normale de cette pluviométrie-là. Donc, il y a eu une forte campagne de reboisement pour influencer les populations, pour influencer les collectivités locales à élaborer des stratégies qui leur permettraient, en fait, de faire recouvrir ces forêts de mangroves-là. Et en dehors de ça aussi, nous avons fait un lien entre mangroves et changement climatique, mais aussi on a fait un lien entre mangroves et sécurité alimentaire. Parce que quand la mangrove était là avant la grande sécheresse du Sahel des années 70, les populations des milieux de mangrove étaient aussi vivants. Ils avaient tout.
Est-ce que les populations se rendent compte aujourd'hui que la présence ou bien la mangrove joue un rôle très important dans leur vie?
Mais oui. Elles savent, elles vivent, elles ont vécu. C'est depuis des siècles qu'ils sont en relation avec ces milieux-là. C'est vrai que dans certains endroits, il y a des problèmes de population, d'augmentation de la population et de pauvreté. Ce qui influence la forte pression sur ces ressources-là. Mais ils savent le rôle que la mangrove joue, et que ce soit d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociologique et d'un point de vue économique. Ils savent. Mais la pression, elle est essentiellement due soit à la pression liée au fait que les gens deviennent de plus en plus pauvres parce qu'il n'y a pas d'investissement dans les coins, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas beaucoup d'investissement de la part de l'État. Les gens n'ont que ces ressources-là pour pouvoir satisfaire à leurs besoins. Mm-hmm. C'est un peu ça. Les populations comprennent bien les enjeux, comprennent bien l'importance de la mangrove. C'est là où je disais tantôt que ce sont les États qui doivent venir accompagner un peu ce processus en investissant, en accompagnant la population sur cette question-là. C'est beaucoup plus des questions économiques et des questions souvent de survie aussi.
Merci à Aboutoulaye Thiam, spécialiste des mangroves et directeur exécutif de l'association ouest-africaine pour l'environnement marin basée à Dakar au Sénégal. L'importance des forêts de mangroves pour l'écosystème était au menu de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Kwasi Witiassou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.